tout juste 20h et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission sportive de Radio G. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Sport. On est ensemble pour parler de sport pendant près d'une heure, de sport local, de sport national et même de sport international. On est aujourd'hui avec une équipe de choc. Cédric est présent. Salut Cédric, comment ça va?
Salut, bah écoute, ça va quoi? Après le bon dimanche avec la belle surprise qu'on a eue.
Eh oui, très belle surprise. Hein.
On espère que d'ici quelques minutes...
On aura une autre.
On va continuer. Voilà.
Ben oui. Le rêve va-t-il continuer? On le saura tout à l'heure. On en parlera évidemment longtemps des Ducs. Et puis il y a également Faustin qui est là avec nous. Salut Faustin.
Salut tout le monde.
Tu commences à vraiment être un habitué maintenant de l'émission. On va donc avoir une émission un peu particulière. On va un peu déstructurer ce qu'on a l'habitude de faire. On va commencer par les actualités locales et on reviendra notamment longuement sur le hockey sur glace et avec notamment un espèce de fil rouge sur la partie qui va bientôt commencer entre les Ducs et Grenoble. Et puis après on passera une pause musicale, on passera après du côté national et international avec les actus du côté du foot. On parlera un petit peu de catch avec toi Cédric si on a le temps. On parlera de basket avec Faustin et on parlera des Lakers d'ailleurs. Et puis moi je vous ferai un petit point sur les dernières infos du côté du tennis et du handball. On va pouvoir donc commencer tout de suite avec les actus locales. Alors que tout espoir semblait être terminé, les handballeurs du SCO d'Angers ont connu un sursaut d'orgueil vendredi dernier à Jean-Bouin. Ils étaient opposés à Tremblay en France, un candidat au play-off, et les Angevins étaient loin d'être favoris, surtout après une série de 3 défaites consécutives. En début de match, la hiérarchie était respectée et les Tremblaisiens menaient rapidement 10-4 au bout d'un quart d'heure de jeu. C'est alors que le SCO répliqua et en moins de 10 minutes, il recolla à 12 partout. À la pause, Tremblay ne menait que d'une longueur, 16-15. La seconde période est une bataille de tous les instants et les deux équipes prenant donc chacune l'avantage, chacune leur tour. Mathieu Limousin permettait aux siens de revenir à 29 partout à 2 minutes du terme et c'est Mohamed Ali, le gardien égyptien héroïque durant la rencontre, qui va garder donc sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final avec une double parade décisive dans les ultimes secondes. Et c'est donc sur un match nul que se séparent les deux formations, un partage des points qui ne fait qu'à moitié les affaires du SCO. Les Angevins auraient bien pris les deux points de la victoire mais doivent se contenter d'un seul alors qu'ils comptent désormais 6 points de retard sur le premier non relégable. Chaque match est désormais une finale pour les partenaires de Steven Corneille avec un tel retard au classement. On avait déjà dit que le maintien serait compliqué, il n'est pas encore mathématiquement impossible. Pour cela, il faudra au minimum ne pas perdre du côté de Cherbourg vendredi prochain. On va passer à un autre SCO et le SCO Foot qui pouvait confirmer son regain de forme aperçu lors de la victoire contre Brest avant la trêve. Mais face à eux, ils avaient un sérieux adversaire qui était lui-même en mal de points puisque c'est Lyon qui les accueillait au Groupama Stadium. Rapidement, les SCOistes concèdent l'ouverture du score par l'intermédiaire de Moussa Dembélé. En seconde mi-temps, les Angevins repartent avec de meilleures intentions et trouvent la faille grâce à Mathias Pereira-Lage. Mais Moussa Dembélé s'offre un doublé dans la foulée et les Lyonnais reprennent ainsi l'avantage à la réception d'un centre de Souleyman Doumbia. Sofiane Boufal trompe Anthony Lopez et ramène les Angevins à hauteur des locaux. C'est finalement Lyon qui aura le dernier mot avec sa récente recrue venue d'Ukraine, le Brésilien Tété, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk qui enroule parfaitement sa frappe pour tromper Anthony Mandrea. Les Angevins repartent donc du Groupama Stadium frustrés par cette cruelle défaite, d'autant plus que le coach Baticle réclamait un pénalty oublié sur Bouffal. Messieurs, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez un peu suivi la rencontre ou alors quel est votre sentiment par rapport à cette défaite du SCO?
Alors, est-ce qu'il y avait réellement pénalty? Apparemment, oui.
Oui, ben en tout cas, enfin c'est pas l'arbitre apparemment s'est justifié auprès de Saïd Chabat.
Oui, 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 il y a eu une explication que
comme disant c'est du foot,
ça fait partie du jeu, le contact fait partie du jeu. Quelque part, c'est vrai, mais bon.
Mais là, ça
à ce niveau-là, illicite. Apparemment, voilà. Après, j'ai suivi ça vraiment de loin, mais bon. Après, on savait que de toute façon, ça allait être un match piège au vu du classement des deux équipes. Est-ce qu'on peut réellement crier au scandale face à Lyon?
Pas forcément.
Pas forcément, voilà. Je pense que limite, c'est cette énergie qui est utilisée d'un côté à bon escient. Effectivement, il faut aussi remettre les arbitres en place correctement et aussi revoir des fois la politique de l'arbitrage. Mais est-ce que c'est le moment réellement de mettre toute son énergie là-dedans? Je pense qu'il y a un derby qui arrive bientôt, il y a des matchs clés qui arrivent bientôt. Peut-être plus se concentrer là-dessus. Et effectivement, on a eu des défaites injustes dans la saison. On en aura encore dans la prochaine saison et dans les saisons prochaines. Donc, je pense que c'est pas vraiment le bon moment. Mais bon, on sait qu'avec le SCO, depuis un moment, c'est un peu bizarre certaines décisions. Logique d'un côté, mais bon, faut vraiment passer à autre chose. Et puis
ouais, voilà, c'est quand même une défaite encourageante. Faustin, t'as quelque chose à dire?
Moi, je suis d'accord avec vous. Hein, certes, c'est cruel, mais faut passer à autre chose, parce qu'on pourra rien y faire, quoi. Et il y a deux choses plus importantes pour se maintenir, quoi. On n'a qu'à 5 points du relégable.
Ouais, c'est ça, c'est Saint-Etienne, hein, qui est 18e. Donc, va falloir faire gaffe à tout ça. Et on avait parlé d'un calendrier qui était quand même pas facile pour le SCO. On verra ce qu'il en est après ce match. On va passer au basket. Pas de match ce week-end pour l'UFAB, qui a vu donc sa rencontre contre Charleville-Mézières être reporté à vendredi. Ce report de match a profité à l'ATM Montpellier, qui a dépassé Angers au classement grâce à sa victoire contre Saint-Amand. Les Angevines sont donc pour le moment 8e, à la frontière entre les play-offs et les play-downs. De son côté, l'EAB est toujours aussi impérial et s'est offert vendredi dernier à Mulhouse un 6e succès en 6 rencontres de deuxième phase. Chaque week-end donc rapproche un peu plus les joueurs de l'étoile d'un exploit majeur, et cette acception en Pro B tant rêvée par les joueurs. Dès ce soir, l'Étoile Angers Basket d'ailleurs peut être sacrée championne de France de National 1 avec la réception de Lyon. Alors, en cas de succès angevin combiné à une défaite de Poitiers, les joueurs de Sylvain Delorme accéderont directement à la Pro B. On suivra ça dès ce soir. On suit même d'ailleurs donc en même temps les deux matchs, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les derniers résultats. Côté Choulet Basket, fin de série donc pour le CB, qui après 3 victoires consécutives s'est incliné sur le fil à domicile contre Strasbourg. Au classement, pas vraiment de changement. Les Maugeois restent éloignés de la zone de relégation et les playoffs semblent inatteignables. On va continuer avec sur le sport local, avec un autre match important qui a lieu ce soir entre deux grosses équipes du département, et cette fois on parle de tennis de table. Les Loups d'Angers reçoivent la Romagne à la salle Jean Moulin pour un derby de feu et qui a également une importance en vue du titre de champion de France. Champion en titre, les Angevins veulent mettre la pression sur les Romagnons, actuels leaders de Pro A. En tout cas, le match a déjà commencé et on vous tiendra au courant si on a des news par rapport à ce match. Et on va finalement donc enfin parler de hockey avec l'incroyable série des Ducs d'Angers contre les Dragons de Rouen. Les Angevins étaient menés 3-2 dans la série après une cruelle défaite à l'AS Park mardi dernier. Vendredi, nos Ducs étaient donc dos au mur au moment de se rendre à Rouen. À la fin du premier tiers, les Dragons menaient d'ailleurs 1-0 et les Ducs étaient d'ailleurs provisoirement éliminés de la Ligue Magnus, mais c'était sans compter sur la Dallangevin et le talent des coéquipiers de Robin Gabory qui sont revenus donc dans le second tiers à un partout avant de dérouler dans le troisième, victoire finale 4-1. Il y a donc eu un match 7 à l'Ice Park, c'était donc ce dimanche après-midi, un match décisif pour cette saison qui tourna vite à la démonstration. Les Ducs d'Angers donc surclassaient les Rouennais 7 buts à 1 et se qualifient donc pour la cinquième finale de leur histoire. En finale, donc, ils rejoignent l'ogre grenoblois, intraitable durant toute la saison. Et le premier match de la série, c'est ce soir. Cédric, comment tu sens nos Angevins ? Est-ce que l'exploit est possible ?
On repart sur une nouvelle dynamique. Tout est possible. C'est une finale, c'est 4 matchs minimum. Donc, tout va jouer, je pense, déjà dès ce soir. On joue à l'extérieur. Grenoble, ça a été compliqué cette année, mais quand on voit ce qu'on a fait contre Rouen ce week-end, d'aller chercher cette énergie supplémentaire pour se qualifier, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et si on peut très vite régler ça, ce sera très bien. Mais quelque part, si on peut avoir des matchs aussi engagés et que ça fasse du 2-2 à la fin des 4 matchs prévus, qu'on ait un petit bonus. Pourquoi pas, mais bon. Je pense que, en tout cas, au vu des deux équipes, on peut s'attendre à une très belle finale de Ligue Magnus cette saison, quoi.
Les Grenoblois, ils restent quand même favoris. C'est vrai que pour toi, où y a ces égalités, ces 50-50 ?
Ah, comme je t'ai dit, on part vraiment sur une autre.
Ouais, c'est deux dynamiques différentes.
Enfin, il y a eu les playoffs.
Ouais.
Et il y a la finale.
Et là, ça va tout.
Et là, on a eu la saison où il y avait, voilà, effectivement une dominance. Ils ont dominé aussi en playoffs.
Ouais.
Ils ont quand même réussi à perdre un match, je crois, ou deux.
Ouais, ils ont perdu un match sur les.
Voilà.
Les...
Donc, ça veut dire qu'ils sont.
Ils sont prenables.
Ils sont prenables quelque part.
D'ailleurs, les Ducs, ils ont battu en phase régulière.
Ouais, il y a eu.
Donc, c'est pas.
Il y a eu la possibilité de le faire. Bon, le dernier match de la saison, c'était une victoire grenobloise, donc c'est encore assez chaud. Donc, il y a toujours peut-être ce côté aussi revanchard. Donc, non, je pense que c'est. Ils restent, oui, sur le papier, au vu de leur saison, ils le méritent déjà quelque part. Mais quand on voit aussi la saison d'Angers, ils le méritent aussi. Donc. Bah, et là, ça va être la déception pour le vaincu et le bonheur pour le vainqueur. Et... Mais dans tous les cas, je pense que les deux équipes, elles n'auront pas à rougir de leur parcours.
Ouais, je pense que ça va être un.
Et surtout encore plus Angers au final.
Bah oui, c'est ça.
C'est peut-être Angers au final qui a peut-être plus la pression, puisqu'en cas de réussite, ce serait le premier titre en Ligue Magnus.
Le premier doublé. Ce serait historique. Hein.
Et le premier titre aussi, enfin le deuxième titre pour l'Ice Park.
Ah oui, en plus
dans la même saison, donc je pense que ça va être chaud pour ça, mais c'est enfin ils sont motivés hein. Et puis derrière ça va pousser encore comme ce week-end.
Ah, tu penses que c'est pas une remontée, mais c'est quand même ils sont pas passés loin de l'élimination. Est-ce que tu penses que ça peut les booster pour
ouais, je pense finale, ça. Parce que c'est pas contre n'importe qui.
Ouais, c'est ça.
C'était contre Rouen.
Un gros rival.
Quelque
gros
part,
rival.
Voilà, l'ennemi héréditaire en termes de hockey. Toute proportion gardée, bien sûr, puisque les deux clubs s'entendent quand même bien. Voilà, donc je pense que oui, ça. Je sais pas ce que ça s'est dit dans les vestiaires derrière, mais. Déjà, en fait, ils sont partis directement le dimanche.
Ouais, dès 23h.
Dès 23h, voilà, ils partaient pour Grenoble. Donc, en fait, ils sont restés dans la bulle.
Ouais.
Donc, je pense que voilà, c'est.
Concentré, focus. Ouais.
Et là, tu vois, enfin. C'est rare qu'on les voit comme ça, mais il y a eu regroupement autour du gardien, tout ça, juste avant le match, là.
Ah ouais.
Parce que là, on est à quelques minutes du coup d'envoi.
Ah, donc du premier match contre Grenoble.
Du premier match à Grenoble, ouais.
C'est à Grenoble, c'est ça ?
C'est à Grenoble, ouais. Les deux premiers matchs à Grenoble.
Ensuite.
Les deux suivants à l'Ice Park.
À l'Ice Park. Après.
Samedi et dimanche.
S'il y a match 5, ce sera Grenoble. Match 6, Angers. Et match 7, Grenoble, sûrement.
Ça doit être ça.
Ça doit probablement être ça. Et en tout cas, on a hâte de voir ça. Ça va être en tout cas du beau hockey. Ça on peut garantir.
Ouais, je pense que ouais, ça va.
Ça va être du beau jouer. En tout cas,
même si l'écart sera peut-être compliqué, sera.
Ouais.
Je pense qu'il y aura du beau jeu de chaque côté, quoi.
Faustin, tu suis un peu les Ducs ou pas tellement?
Bah, très peu. Je regarde un peu les résultats quand même parce que ouais. C'est un gros club entre guillemets de Luc Magnus. Mais moi, ce que je me dis, c'est s'ils mettent 7-1. Ouais. À Rouen, c'est quand même un gros score. Je pense qu'ils sont capables de prendre au moins un match ou deux à Grenoble.
Ah
quoi.
Oui, je pense que c'est jouable. Puis surtout, c'est quand le 7-1, c'est intéressant parce que c'est, pour moi, justement, c'est révélateur de ce que je disais juste avant. C'est d'être revenu, d'être mené 3-2, d'avoir ce moment où ils sont menés alors qu'ils sont au bord de l'élimination et d'avoir renversé le match. Je pense que derrière, ça les a complètement libérés pour le match 7 et donc ça peut être de bon augure pour cette fin de, en tout cas pour ce dernier match et cette finale de Ligue Magnus. Du coup, par rapport au match de ce soir, ça a pas commencé encore, Cédric ?
Logiquement, ça aurait dû commencer, mais bon, le temps de voilà, il y a une présentation un petit peu spéciale. La coupe a été présentée voilà au public, donc le temps d'enlever tout ça, d'enlever le tapis rouge, d'ici quelques secondes, je dirais, ça va démarrer, quoi.
Ok, bah très bien. Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est vrai que, ou même toi, Faustin, peut-être, est-ce que vous sentez d'aller voir les Ducs pendant cette... Toi, c'est vrai que tu seras peut-être...
Il y a une forte chance...
Au vu de ta casquette, à l'effigie
des Ducs... Oui, il y a quasiment... En espérant trouver des places, parce que je sais pas où ça en est, au vu de la folie que ça a été pour les derniers matchs. Ouais. En tout cas, s'il y a une possibilité, même si, par exemple, on perd 3 et qu'il reste le match 4 qui serait le dernier, je pense juste pour cette saison avoir une dernière fois l'ambiance, beau, parce que quel que soit le résultat, l'ambiance sera présente.
Bien sûr. Le public Angevin est fidèle.
Et c'est vrai, Je me posais la question, mais est-ce qu'Angers n'est pas en train de devenir une ville de hockey plus qu'une ville de foot au final?
Ah bah peut-être. Au vu de foot, je sais pas, peut-être.
On peut pas vraiment comparer en termes de capacité, mais en termes d'influence et de répercussion.
Oui, dans le côté peut-être ferveur populaire, peut-être.
Je pense, ouais.
En tout cas, on sent depuis l'AS Park qu'il y a une.
Mais en tout cas, ouais, depuis l'AS Park, limite, je crois qu'il faudrait presque l'agrandir.
Ouais, c'est ça. Peut-être. C'est... encore la rénover.
Je pense qu'il y aura encore plus de place, il y aura encore plus de monde.
Ah bah, clairement, ouais. Clairement.
Et ça fait des années que le club se construit et voilà.
Ouais, les tickets vont s'arracher pour les matchs. Hein, donc,
Oui, et puis l'année prochaine avec la Coupe d'Europe.
Ouais, ça va être très intéressant.
Les championnats du monde féminin, quand même, cette année.
Ouais, on pourra en parler.
Ça fait beaucoup de choses autour du hockey sur Angers.
Ouais.
Je crois qu'il y a même eu des petites distorsions au niveau de la mairie et des opposants, donc comme quoi ça veut dire qu'il y a,
il
y a quelque chose autour du hockey qui voilà,
il y en a qui voulaient pas,
j'ai vu passer l'article, je me suis pas plus intéressé que ça parce que les histoires politiques c'est pas notre dada.
C'est clairement ça,
mais voilà, non. Mais ça veut dire qu'en tout cas ça fait réagir.
Ouais, voilà. En tout cas, voilà l'info.
Et le match est officiellement lancé.
Donc, quoi qu'il arrive, les Ducs, on marque leur histoire avec de toute façon cette saison. Quoi qu'il arrive, la finale, la Coupe de France gagnée et surtout cette ferveur populaire qui est rassemblée à l'Ice Park pendant toute l'année.
Et je pense que ça doit déjà vibrer dans deux endroits qui sont associés au club au club de supporters.
On en a parlé la semaine dernière.
Ah là, je pense qu'il y a. Entre le Matt Murphy
et le Delirium.
Et le Delirium, je pense que ce soir, ça va être la folie.
C'est ça.
Pendant le match et peut-être après s'il y a une victoire.
Et pourquoi pas. On va passer à la première pause musicale. On va s'écouter Angèle avec Damso pour le titre Démon.
Thank you. souviens de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprendrai toutes les vertus. Oh, jour après jour, je m'habitue. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Quand maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom. C'est la magie ou pas, tout est ton
pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. Je suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, faut rappeur, non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincère, non, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me plaire dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, je ferai un don de quelques futurs homo sapiens. Je suis l'avatar du game, mais je maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer les démons.
Comme maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom. C'est la magie ou pas, tout est ton rang. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons. Comment faire pour tuer mes démons? Comme maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom.
Retour sur le 101.5 FM de Radio G. Vous nous écoutez aussi depuis le site internet de la radio www.radio-g.fr. On est ensemble donc pour les 37 minutes qui nous restent pour parler sport. On va enchaîner avec les infos internationales, mais avant ça, petit point hockey, puisqu'on suit en même temps le match. Cédric, pas d'évolution?
Environ 5 minutes de match. 0-0. Donc, ça 0-0. Attaque fort sur la cage angevine.
Donc voilà, les Angevins qui commencent à subir. On suivra ça de près. Du côté de l'EAB, les Angevins sont menés à domicile par Lyon 21-16, mais c'est que le début du match, donc pas d'inquiétude. On va donc partir du côté des actus internationales avec, pour commencer, le tennis. Alors que Roland-Garros arrive à grands pas, les joueurs et les joueuses du circuit avaient rendez-vous en Floride pour le Masters 1000 de Miami. Deux jeunes d'ailleurs se sont imposés dans les deux tableaux. Chez les hommes, c'est l'Espagnol Alcaraz qui reste donc sur sa grande forme du moment en s'offrant le Norvégien Rude en finale. Chez les femmes, la Polonaise Swiatek a remporté son quatrième Masters 1000 en s'imposant en finale contre la Japonaise Naomi Osaka. La jeune joueuse de 20 ans est d'ailleurs passée ce lundi à la première place du classement WTA en succédant à l'Australienne Ashleigh Barty qui a pris sa retraite il y a quelques semaines. En balle, les Ligues des Champions masculines et féminines passent à la phase finale avec 4 clubs français engagés. Chez les hommes, le PSG a concédé le nul 30 partout lors de son match aller contre les Norvégiens d'Elverum. Même résultat du côté de Montpellier contre le FC Porto 29-29. Les deux clubs tricolores recevront leurs adversaires lors de la manche retour qui aura lieu durant cette semaine. Chez les féminines, on connaît déjà l'issue des huitièmes de finale avec les qualifications de Metz et de Brest. Les Bretonnes se sont défaites d'Odense et retrouveront les Hongroises de Győr en quart de finale. Quant aux Messines, elles sont d'ores et déjà qualifiées pour le Final Four après avoir sorti le Borussia Dortmund. Elles étaient censées défier Rostov en quart, mais comme les équipes russes ont été exclues de la compétition, elles se retrouvent directement en demi-finale. Et puis au niveau du basket, les Kansas Jayhawks ont obtenu leur quatrième titre universitaire de leur histoire après avoir renversé les North Carolina Tar Heels, donc 72-69. C'était lundi soir à la Nouvelle-Orléans. Ils ont remonté donc le plus gros écart jamais vu en finale. Faustin, tu nous avais fait une chronique, je crois, sur le sujet. T'as suivi du coup la compétition?
Ouais, j'ai suivi. J'ai vu justement mais ceux que j'avais mis favoris sont fait éliminer le lendemain.
Aïe, coup dur.
Ça.
Il peut être un très bon chroniqueur au final pour l'émission. Hein. Il est aussi doué que nous en pronostic.
Parce que nous, on n'est pas très doué avec Max et Cédric en pronostic. Voilà. bienvenue dans le club. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? T'as suivi ça? T'as regardé?
Je pense que c'est North California qui avait battu Baylor, qui était les champions en titre.
Okay.
Et là, une ascension jusqu'en finale, c'était vraiment pas attendu.
Ok.
Ils sont très bien sortis, même en finale, où justement, on voit, ils menaient de 26 points, il me semble. C'est ça le comeback qu'ils ont pris. Et c'est dommage pour eux. On a aussi vu Duke. C'est une autre grande équipe universitaire qui s'est fait sortir avec où c'était sûrement la dernière saison de leur coach emblématique.
Ok.
Qui n'a malheureusement pas réussi à gagner un seul titre en je ne sais pas combien d'années.
C'était une saison normale au niveau universitaire où il y a eu pas mal de matchs reportés ou...
Non, là ça allait. Les deux dernières saisons c'était compliqué parce que justement même les deux March Madness, il y en a eu une annulée et une dans une bulle. Mais cette saison-là, ça allait à peu près.
Ouais, donc c'est une vraie surprise.
Ouais, ouais.
C'est pas lié, voilà.
Non, pas du tout.
Au report de certains matchs, des calés ou des choses comme ça qui auraient pu chambouler le classement avec l'accumulation des matchs.
Là, le truc de March Madness a un peu rien à voir avec les championnats universitaires. C'est un autre truc un peu différent.
Ouais. D'accord.
C'est des équipes qui sont prises, qui sont choisies par la ligue.
Ok. Eh bien, très bien pour ce petit point sur le basket universitaire américain. On va enchaîner avec le football. Beaucoup d'actualités foot sur la semaine écoulée, avec pour commencer la fin de certains éliminatoires de la Coupe du Monde. En Afrique, le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, le Sénégal et le Ghana se sont qualifiés, tandis qu'en Amérique, l'Équateur, l'Uruguay, les États-Unis ou encore le Mexique ont validé leur ticket pour le Qatar. Il reste encore quelques barrages à disputer en juin prochain, mais le tirage au sort a bien eu lieu vendredi dernier. La France affrontera le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage à 3 entre le Pérou, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. On va en parler juste après. Avant ça, je vais parler de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Donc, une fois cette trêve internationale terminée, l'heure était au retour de la Ligue 1 et son suspense qui entoure les places européennes et les places pour le maintien. Marseille a disposé de Saint-Étienne 4-2. Nice et Rennes se sont quittés sur un score de parité 1 partout. Strasbourg a battu sur le plus petit des scores Lens 1-0. Lille a concédé le nul contre Bordeaux 0-0. Monaco s'impose à Metz 2-1. Nantes l'emporte contre Clermont 3-2. Brest crée la surprise à Montpellier 2-1. Et 3 s'offre le derby contre Reims 1-0. Enfin, le PSG a surclassé Lorient 5-1 avec des doublés de Neymar et de Mbappé conjugués au troisième but de la saison en championnat pour Lionel Messi. Donc ce soir, c'est le retour également de la Ligue des Champions. Manchester City reçoit l'Atlético de Madrid, tandis que Liverpool se déplace à Lisbonne pour y défier le Benfica. Oui, c'est ça. Et puis demain, Chelsea sera opposé au Real Madrid et le Bayern Munich affrontera Villarreal. On va revenir sur le groupe de la France pour la Coupe du Monde. Il y a eu donc ce tirage qui a été effectué vendredi. Moi, ce qui me fait penser, les gars, quand j'ai vu le tirage, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à celui de 2018, puisqu'en fait, on a tout simplement les quatre équipes qui étaient dans le même groupe l'année dernière qui sont... on va dire, dans ce groupe. C'est-à-dire que il y a donc la France et le Danemark qui sont assurés d'être dedans. Et puis bah il y a Pérou et l'Australie. Bon, il y en a un des deux qui sera pas là, mais en tout cas qui était dans le groupe il y a 4 ans. C'est un groupe selon vous abordable ou peut-être en comparaison à 2018 plus facile ou pas?
Bah surtout comparé à maintenant quoi, c'est des équipes la France est censée être largement
ouais, dessus. Bien sûr.
Ce sera clairement des matchs test où je pense que Didier Deschamps il testera certaines compos, des choses comme ça, plutôt que de mettre des 8-0 à chaque équipe, mm-hmm. Ce sera pas marrant quoi.
Toi Cédric, qu'est-ce que t'en penses?
Que on va faire une breaking news.
Ah, breaking news, attention.
Ouverture de Grenoble ouais. À la
t'as pas le sourire,
7e minute.
C'est...
Non, mais ça joue musclé, ça s'échauffe un petit peu.
Ouais.
Ce sera un petit peu dommage que ça dégénère, mais ouais, ça. Mais après, c'est pas surprenant à l'entame du match. Hein,
ouais, c'est flou.
Avec la pression qu'il y a eu.
C'est le folklore du hockey, quoi.
Oui. Et puis il y avait une grosse pression sur la cage des Ducs, donc on va dire ouverture logique.
Ouais, ouverture du score logique.
Et sinon, oui, bah le tirage. Je sais pas s'il est si facile que ça. En tout cas, comparé à d'autres, oui.
Ouais.
Mais je pense qu'il faudra peut-être se méfier de certaines équipes.
Ouais.
Je pense la Tunisie, quand même, qui.
Ça peut être dangereux, la Tunisie. Ouais.
Qui je pense, a envie d'aller chercher un titre un jour.
Donc, ouais, en tout cas, un beau parcours.
En tout cas, ouais. Mais. Donc, eux, je pense qu'ils peuvent nous mettre des bâtons dans les roues.
Et puis le Danemark a quand même beaucoup progressé par rapport à il y a 4 ans. Ouais.
On est quand même habitué, on les croise souvent dans les poules
des
différentes compétitions. Historiquement, je pense qu'on a un meilleur ratio de victoires, mais c'est clair qu'ils ont progressé et faut toujours s'en méfier. Mais je pense que le match, oui, qui va être le plus compliqué. En tout cas, pour l'instant, ouais, c'est contre la Tunisie.
Ouais, je pense que ça va être. Je pense qu'il y a quand même un petit upgrade, si on peut dire ça, par rapport au groupe de 2018. Avec donc, ouais, le Danemark qui est meilleur. On a la Tunisie qui est, je pense, meilleure que le Pérou et l'Australie. D'ailleurs, sur le barrage à 3, vous voyez qui vous? Moi, je vois bien, du coup, peut-être. Ouais, Pérou, Australie, quoi, parce que c'est vrai que le Pérou, c'est quand même une bonne équipe. Et puis, bah, l'Australie aussi, c'est assez carré. Je vois mal les Émirats Arabes Unis l'emporter. Pour expliquer un peu aux auditeurs, d'abord, il y aura un match entre l'Australie et les Émirats Arabes Unis pour déterminer qui aura le dernier ticket pour ce barrage, donc du côté de la zone Asie. Donc, en gros, oui, parce que l'Australie, il faut expliquer pour ceux qui ne sont pas très initiés au niveau du foot, l'Australie est considérée par la FIFA dans la zone AFC, donc la zone de l'Asie.
Ce qui est logique.
Alors, géographiquement, ça se discute.
Oui, mais en termes de décalage,
évidemment.
Pour rien, tout ça, c'est.
Et ouais. Puis, même, voilà, le côté sportif, c'est vrai que le champion. Ouais, l'Océanie est connue pour pas avoir un gros niveau en football, en tout cas. En rugby, c'est différent. Mais en football, voilà, pas un gros niveau. Et donc, voilà. Donc, le vainqueur de ce match, donc, entre l'Australie et les Émirats Arabes Unis, affrontera le Pérou, donc, qui est terminé dans les barrages de la zone. De la zone d'Amérique du Sud, et j'ai oublié le nom, enfin l'acronyme, mais c'est pas grave. Je sais que au-dessus, donc Amérique du Nord et Amérique centrale, c'est CONCACAF.
J'aurais dit CONCACAF aussi.
Non, mais... c'est la CONMEBOL. Ça y est, ça m'est revenu.
Ah oui.
La CONMEBOL, donc pour. Ça, c'est assez long. Mais voilà, en tout cas, on verra. Je pense Pérou-Australie, je pense, les gars, vous êtes plutôt d'accord là-dessus.
Oui, clairement.
Ouais, clairement.
Ça paraît très logique.
Ça paraît très.
Même si, enfin, je comprends pas ce regroupement de qualification. Ils sont pas dans la même zone, du coup, on les met ensemble histoire de tirer une dernière place. Enfin,
ouais, c'est bizarre.
Ces tirages, des fois, dans les coupes du monde, sont très étonnants.
Bref, on va pouvoir enchaîner avec la chronique de Faustin que vous attendez tous, chers auditeurs. On va parler des Lakers. Donc quand Max m'a dit que tu allais parler des Lakers, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu vu le classement. Ils sont pas en grande forme.
Ah non.
Et surtout, j'ai regardé leur effectif. Ils ont un gros effectif qui contraste avec leur place actuellement au classement. Tu vas nous en dire plus tout de suite.
Ouais, exactement. Donc, je vais vous parler de la course au play-off. Donc déjà, je vais dire comment se passe le championnat de NBA. C'est-à-dire qu'il est réparti en deux conférences, conférence Est et Ouest. Ces deux conférences s'affrontent entre elles, mais elles ont un classement différent. Donc il y a 15 équipes par conférence. Et les 6 premières par conférence sont directement qualifiées dans les play-offs, qui sont à peu près les mêmes qu'en Ligue Magnus, par exemple, où c'est des matchs le premier à 4 qui gagne. Mais et cette année et l'année dernière, ils ont aussi rajouté ce qu'on appelle le play-in, c'est-à-dire que c'est les équipes de la 7e jusqu'à la 10e place qui vont s'affronter pour jouer soit contre le premier, soit contre le deuxième en play-off. Donc les 8e et 9e vont s'affronter, celui qui gagne ce match sera directement qualifié, et celui qui perd ce match jouera contre le vainqueur du match 9e contre 10e. Donc voilà. Et à votre avis, je vais demander combien sont les Lakers pour l'instant? Bah,
moi j'ai vu, donc enfin j'ai vu hier, donc ça a peut-être changé.
Moi j'ai pas suivi la saison, donc je dirais 9e, allez.
Ah, malheureusement.
Je peux répondre?
Vas-y.
Je crois que c'est 11e.
Exactement. Donc pour l'instant, ils sont éliminés de ces playoffs. Et leur saison serait complètement finie, sachant qu'il ne reste que 4 matchs. Ils ont un match d'écart, enfin une victoire d'écart entre les 10e qui sont les Spurs. Sachant que les Lakers ont quand même un calendrier bien plus compliqué que celui des Spurs, où ils doivent affronter les premiers, donc les Suns de Phoenix, puis Golden State, donc l'équipe de Stephen Curry, et ensuite les Denver Nuggets, qui sont eux aussi très bien classés. Et en plus de ça, ils ont perdu contre les Pelicans, qui sont eux 9e, à il me semble 3 ou 4 victoires des Lakers, ce qui ne leur a pas fait du bien du tout. Et attends, je voulais dire pourquoi ce serait une catastrophe vraiment pour les Lakers de perdre, de ne pas se qualifier cette année. C'est bah, justement, comme tu l'as dit Alex tout à l'heure, ils ont créé une super team, donc avec notamment cette année l'arrivée de Russell Westbrook et de Carmelo Anthony, qui étaient déjà accompagnés l'année dernière évidemment du grand LeBron James ainsi que Anthony Davis. Et cette saison, malgré de nombreuses blessures, la plupart des joueurs ont quand même été présents, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser, avec notamment un Russell Westbrook qu'on a vu très peu performant. Et moi, cette équipe, elle me fait penser un peu aux Rams, qui ont gagné, eux, la NFL, hein, qui ont, eux aussi, construit une super team, sauf que, bah, eux, ça a complètement marché, hein, parce qu'ils ont gagné le Super Bowl, on en avait parlé ici, d'ailleurs. Mais bon, sur ce, LeBron James ne compte quand même pas, lui, envisager une retraite, malgré ses 37 ans et ses 19 ans de carrière en NBA, car il aimerait jouer avec son fils, Bronny James, qui est attendu pour 2024 en NBA. Donc à voir s'il pourra jouer avec ou contre. Je pense qu'il aimerait énormément jouer avec lui, hein. Ce serait très beau, ce serait la première fois que ça arriverait en NBA, surtout avec, avec des joueurs de cette renom. Après, du point de vue des fans, les fans préféreraient que ce soit plus les Spurs qui gagnent pour Greg Popovich. J'avais aussi parlé dans une chronique, et qui fera sûrement sa dernière saison.
Ouais.
Donc voilà. Je pense que je referai le point dans deux semaines, quand justement les matchs de saison régulière seront finis, où je vous parlerai aussi de ce qui s'est passé à l'Est, car c'est aussi très intéressant. Mais là, c'est plus au niveau du haut du tableau, où du 6e jusqu'au 1er, bah, tout le monde peut décrocher la première place.
Et c'est intéressant d'ailleurs, par rapport à ça, pour les Lakers, c'est encore jouable pour eux quand même.
Ouais, c'est encore
jouable. Enfin, en tout cas, sportivement, mathématiquement, c'est jouable.
Ouais.
Toi, de ton avis d'observateur, tu t'en penses quoi? Est-ce qu'ils vont le faire?
Pour moi, je pense que non. Justement, je l'avais dit, au vu du calendrier, où ils ont le.
Ça termine en combien de temps le.
Il me semble qu'il reste 4 matchs.
Ah, c'est très peu pour.
Il n'y a qu'une victoire d'écart, donc franchement, ça se fait. Mais il faudrait un gros exploit contre une des trois grosses équipes qui vont jouer.
T'as regardé un peu les matchs, comment t'expliques ce. Justement, parce qu'il y a quand même une équipe de stars, il y a tout ça, et puis. Et puis, ça arrive pas. On a l'impression que tu faisais une comparaison aux Rams de Los Angeles, mais ça fait penser aussi un peu au PSG.
Moi, j'allais la poser justement, tu vois, cette observation. Parce que oui, effectivement.
Ça pose question sur l'ensemble.
Ça donne l'impression
des sports,
que c'est une équipe paye pour to win, quoi.
Ah, c'est ça, ouais. Alors qu'au final, il n'y a
pas
de.
Plutôt parce qu'il y a. C'était il y a deux ans de la saison 2020-2021, ils avaient gagné.
Ouais.
C'était certes pendant le Covid, pendant la.
C'est 2020 ou 2021 ?
C'est la saison 2020-2021 sur les.
C'est il y a deux ans.
Ça se finit en
enfin,
juillet.
C'est deux ans en arrière, ouais.
Oh, ok. Parce que elle avait été décalée. Ouais,
c'est l'année du décès de Kobe.
Mm. Ah oui, ok.
Et c'était pendant la bulle à.
Ouais, oui, à Disneyland,
peu,
ouais, je crois.
Ouais, voilà, ça, c'était un peu bizarre. Mais bon, ils avaient quand même gagné. Toutes les équipes étaient là avec tous leurs joueurs en général.
C'est-à-dire que cette équipe qui avait déjà montré des choses a rajouté des joueurs en plus.
Et puis je crois qu'ils avaient été largement au-dessus
ils avaient
à cette époque-là. Il y avait quand même des gros stars qui sont encore là, qui étaient présents pour ce titre-là. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu justement l'effet simplement Kobe Bryant qui les a poussés forcément à aller chercher ce titre-là?
Peut-être.
Je pense que ça a dû y jouer au vu de l'impact qu'il avait encore dans l'équipe, hein, malgré qu'il était plus au club, mais voilà. Donc, finalement, c'est peut-être juste cette saison de ce titre-là qui est une erreur sur toute la ligne des Lakers en termes de construction d'équipe et à empiler des stars, comme tu disais au PSG, à un moment, ça fait embouteillage et.
Après, c'est un peu ce qui est fait l'année.
Ouais,
l'année dernière déjà ils avaient rajouté quelques petites stars justement déjà l'arrivée de LeBron James et Anthony Davis c'était LeBron James puis Anthony Davis l'année d'après, c'était énorme et ça avait marché, et là rajouter des joueurs en plus, c'est juste que ça a créé un équilibre très mauvais où tout le monde était là pour jouer pour sa peau, quoi.
C'est ça, c'est comme ça que tu pourrais expliquer ces mauvais résultats. C'est chacun joue personnellement ou c'est plus en raison de peut-être des blessures, peut-être un coach qui est pas assez.
Je pense pas que ce soit
tactiquement.
Le coach. Hein. Le coach. Le problème du coach aussi, c'est que avec toutes ces grosses stars, il a du mal à
tout gérer, quoi.
Ouais, voilà. Ça.
On voit ça avec le PSG. Hein.
Ouais, exactement. C'est
on voit ça avec plein d'équipes.
Hein. Après le PSG, ils sont quand même premiers, quoi.
Après oui, mais je veux dire en Ligue des Champions, parce que leur objectif c'est la Ligue des Champions. Il y a pas mal de trucs comme ça. Même c'est pareil au PSG Handball où ils investissent. Quand on a vu les joueurs qu'il y avait au tout début du PSG Handball, ils ont toujours pas pareil décroché de Ligue des Champions et voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce phénomène-là au basket et sur les Lakers. Surtout que c'est un club historique, c'est une belle ville. Il y a quatre gros noms, en tout cas, que même quand on y connaît peu au basket.
Ah, surtout LeBron James.
Ouais, déjà LeBron James.
Déjà le meilleur joueur du monde.
Déjà, quand t'as LeBron James dans ton équipe, tu pars déjà avec un bon avantage. Et quand tu rajoutes Carmelo Anthony, Russell Westbrook et Anthony Davis, il y a voilà quoi.
Ouais, et encore, quand tu regardes le cas de Carmelo Anthony, si tu prends ses dernières saisons, il est quand même en gros déclin en termes de points marqués en moyenne.
Carmelo Anthony, c'est un peu un joueur qui était un gros espoir et qui a déçu.
Je sais pas
si c'est ça ou pas.
Non,
mais...
en fait, c'est que là, déjà, il se fait vieux, je crois. Il était drafté.
37 ans, ouais.
Au final, c'est comme LeBron, mais après, LeBron, c'est différent, j'allais dire quand même.
C'est différent.
Mais c'est ça, c'est un moment où il avait pris une semi-retraite.
Ouais.
Puis il est revenu à Portland. Où il n'avait pas du tout un rôle majeur comme il avait avant au Knicks.
Ah, c'était au Knicks qui était vraiment.
Ouais, c'est là qu'il a brillé.
Ouais.
Pour moi, c'est pas du tout un talent gâché.
Ouais.
Mais c'est ça, et là, il est venu ici pour la fame, pour les étoiles de Los Angeles, tout ça.
Donc, ouais, c'est assez dommage. Merci beaucoup pour ta chronique. C'est vrai que c'était assez intéressant, puis ça nous a permis de faire un point sur la NBA. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, donc ça fait plaisir.
Et dans le classement actuellement, il y a des surprises ou pas?
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
On a à la rigueur, justement, Denver, j'en parlais, c'est... Les Lakers qui vont jouer contre eux, ils sont un peu en deçà de ce qu'on espérait. Ils sont 6e. Mais bon, c'est pas énorme non plus, quoi.
D'ailleurs, si je peux avoir un dernier truc, les Brooklyn Nets, c'est un peu pareil, non?
Ouais, bah eux, ils ont beaucoup plus de problèmes de blessures, de Kyrie qui voulait pas se faire vacciner, qui pouvait pas jouer, puis finalement qu'à l'extérieur, maintenant il va peut-être pouvoir faire les playoffs aussi à Brooklyn. C'était un peu compliqué. Eux, c'est. Ouais, les, pareil, James Harden qui est parti aussi.
Ouais, ils sont partis.
Et KD blessé un certain temps aussi.
Donc ouais, c'est vrai que ça faisait penser un peu à ça, c'est ce recrutement subitement de trois gros noms de l'NBA.
Ouais, c'est clair.
Et ça a pas forcément payé, je pense. Non. Parce que voilà.
Bah ils sont sûrs d'être en play-in.
Ouais, quand même. Bon, ça va. Mais c'est vrai que beaucoup de blessures surtout.
Ouais.
On va enchaîner un point sur tous les. Alors on va faire un point. Je sais pas comment on dit, mais un point direct. On
un
va
point
dire.
Direct. Un point situation direct. Sur les directs.
Alors d'abord on va commencer par le hockey. Cédric, toujours 1-0 pour Grenoble.
Alors je peux te commenter. Il reste 9 secondes d'attaque de Grenoble et ça va finir sûrement toujours sur un 1-0.
Donc dans ce premier
pour tiers. Grenoble dans le premier tiers, ouais.
Donc voilà, le premier tiers remporté par.
Premier tiers quand même assez disputé.
Ouais, finalement.
Ouais, c'est enfin. Il y a eu des petites occasions, il y a eu des pénalités contre Grenoble, contre les Angevins. C'est pas un écart si catastrophique, j'ai envie de dire, mais ça va sûrement pousser pendant le deuxième et le troisième, ça, c'est quasiment sûr quoi.
Un point sur le basket avec Angers. On rappelle Angers qui peut être sacré dès ce soir champion de National 1. Angers donc qui fait le boulot actuellement donc du côté de Jean Bouin avec pour l'instant donc 38-29 contre Lyon. Mais du côté de Poitiers, les Poitevins, je crois qu'on dit Poitevins, les Poitevins qui mènent assez largement avec la réception de Mulhouse 47-34. Donc voilà, si Poitiers gagne, il va falloir encore un peu attendre un peu pour Angers pour valider le ticket en Pro B. Et puis du coup, je vous parlais un peu de tes tables pendant la chronique. Actuellement donc le match, le derby entre Angers et la Romagne. Donc Angers qui gagne, donc a gagné le premier match, qui gagne donc actuellement 1-0. Et il y a un tout dernier, le deuxième match, il y a un dernier set donc entre personne et Alamanian. J'espère que je prononce bien, mais en tout cas voilà, c'est assez disputé dans ce match de tennis de table qui oppose vraiment deux grosses équipes du championnat de France.
Il y aura un des deux loups qu'on va apprécier ce soir.
Ah oui,
je dirais pas lequel.
Non, parce que du coup c'est les brûleurs de loups. Ils s'appellent comme ça.
Oui. Et Grenoble c'est les loups aussi du coup.
Non,
leur emblème.
Ah oui, attends, je comprends pas. Grenoble, le nom de Grenoble, c'est les brûleurs de loups de Grenoble, on est d'accord. Donc c'est pas des loups, c'est les brûleurs de loups.
Il y a quand même le mot loup dedans.
Oui, c'est vrai. Okay, d'accord. Mais c'est vrai qu'on préfère les loups de d'Angers.
On préfère nos loups à nous.
Nos loups d'Angers, voilà. Et nos ducs. Et voilà. Et du coup, ouais, on va repartir sur le week-end. Il s'est passé d'autres choses, je crois, Cédric, du côté des États-Unis. Alors moi, je m'y connais pas tellement en catch. Et puis Max n'est pas là, donc il aurait pu en toucher deux mots peut-être. Mais tu vas nous en parler. C'est la WrestleMania. J'espère que je le prends bien.
WrestleMania 38. Ouais.
Et il y a eu donc, je crois, deux nuits.
Deux nuits. Ouais. Maintenant, c'est devenu le nouveau format. Mm-hmm. On était au Texas cette année.
Ok. Et du coup, t'as suivi ça?
Ouais.
J'imagine que t'as eu un week-end compliqué. Est-ce que tu étais à Angers Geek Fest?
Ouais, j'étais aussi à Angers Geek Fest.
C'est sur tous les terrains.
T'sais. Ouais. J'ai pu croiser d'ailleurs la dalle en juillet.
Effectivement. Émission la semaine prochaine.
Voilà, normalement, il n'y a pas de souci.
On espère.
On l'a décalé du coup, parce que c'est vrai que le calendrier est compliqué aussi pour la dalle en juin, avec les différents matchs et événements à suivre. Et donc oui, ils avaient un stand là-bas. J'ai aussi croisé les Phoenix, qui sont les cheerleading qu'on voit notamment au basket,
au hockey.
Il y a sûrement, je pense, d'autres salles où elles sont présentes. Donc voilà, qui étaient là. Donc c'était un petit peu étonnant de voir un peu du sport vu le thème du festival, mais c'était un samedi déjà bien chargé.
Ouais.
Et il y avait donc la première nuit de WrestleMania qui commençait donc officiellement à 2h du mat jusqu'à à peu près 5-6h. Et on remettait ça le lendemain. Donc, je vais pas forcément donner les résultats parce que les gens ont peut-être pas eu le temps de le suivre. Et puis bon, il y a aussi toujours le fameux Raw du lendemain qui a lieu le lundi. Qui est aussi toujours important puisque c'est un peu comme on va dire une série au final, c'est le début de la nouvelle saison. Donc il y a toujours des nouveautés, des retours, des arrivées, enfin des jeunes qui montent dans ce qu'on appelle le roster principal. Donc les deux nuits se valent, j'ai trouvé quand même dans l'ensemble. Peut-être la nuit 2 qui a été un peu plus dure à suivre. Il y avait un peu plus de combats en mode guest, donc c'était pas les pires au final. Il y a eu un titre féminin défendu, un match à 4 par équipe qui était pas exceptionnel. Ce qui a fait plaisir, c'est qu'on a vu des retours d'anciens lutteurs qui étaient plus ou moins donnés à la retraite et qui sont toujours en forme, mais pour au moins un match une dernière fois. Surtout le local du coin, Stone Cold Steve Austin, qui a fait une petite performance le premier jour avec un match qui n'était pas forcément sûr au vu de ses problèmes de santé, mais il a pu faire un match, on va dire, correct. Le lendemain, il a revenu faire une petite apparition. Il y avait eu le vendredi, chose aussi importante, surtout au Texas, il y avait le Hall of Fame et il y avait l'intronisation de l'Undertaker. Voilà, tous ceux qui ont suivi un peu le catch dans les années 80 et jusqu'à maintenant, et même ce qu'on appelle la génération MT1, voilà, connaissent ce nom. Donc c'est vraiment le signe de la retraite. Donc une intronisation émouvante de son côté. Et c'est vrai que on tire vraiment un trait sur le passé, puisque même on a appris il y a pas longtemps la retraite forcée de Triple H suite à un pontage cardiaque. Donc il y avait un petit goût de nostalgie pendant ce WrestleMania. Que dire, on a vu un Paul Logan faire le show. Comparé à l'année dernière, j'ai quand même préféré le rappeur Bad Bunny, qui avait un peu mieux bossé, mais c'était correct. Il est venu prendre l'argent, mais c'était... Enfin, on voit qu'il est quand même passionné, donc ça va, le côté star qui s'incruste dans des matchs, ça est passé, quoi.
Très bien, donc voilà, merci pour ce petit point sur ce week-end de catch, donc avec le WrestleMania. C'est vrai que c'est dommage que Max n'ait pas été là, hein, il en reste sûrement.
Pas du tout. Quand tu me dis Undertaker, ça me dit un truc.
Pas Mysterio.
Ouais, ça aussi.
Ça parle plus facilement de catcheur masqué pour les plus jeunes. Je pense que c'est avec Jeff Hardy, c'est peut-être les trois qui ont vraiment marqué cette génération.
Ouais. C'est vrai que moi je suis pareil, hein. Je suis vraiment pas du tout calé en catch. Mais voilà, en tout cas c'était sympa d'en parler. Ça change un petit peu des sports dont on a l'habitude d'évoquer ici à Génération Sport. L'émission va bientôt toucher à sa fin. Pas d'évolution au niveau du score, Cédric?
C'est la pause. Ouais.
Pause. Du côté d'Angers, toujours, enfin de l'EAB, toujours 42-34, hein, pour l'EAB contre Lyon. On peut donner les compos parce que j'en parlais, c'est la Ligue des Champions ce soir entre plusieurs équipes. Il y a Benfica qui reçoit Liverpool. Dans ce match, il y a un Français qui est titulaire, donc sur la feuille de match, c'est Ibrahima Konaté, hein, le Français en défenseur central, à côté de Virgil van Dijk et notamment d'Alexander Arnold et de Robertson. Du côté de Liverpool, hein, c'est vraiment une équipe type avec Mané, Salah et Luis Diaz, hein, la recrue qui vient de Porto. Du côté de Manchester City, on a également un autre Français qui est présent sur la feuille de match, c'est Antoine Griezmann du côté de l'Atlético. Il est associé en pointe à Joao Félix. Et puis le reste, c'est du classique, hein, du côté de l'Atlético. Alors que du côté de Manchester City, voilà, ça change un petit peu en attaque avec Bernardo Silva qui apparemment est annoncé en pointe avec Mahrez et Sterling sur les côtés. De Bruyne est bel et bien titulaire. Donc voilà, c'est deux matchs plutôt intéressants, mais il y aura aussi deux matchs très intéressants et un en particulier
pour nous aussi, et côté alors, français.
Je dis côté français, mais avant ça, donc le mercredi, il y a donc Chelsea qui affronte le Real Madrid. Ça va être un très très gros match entre les deux bourreaux des clubs français en Ligue des Champions. Et puis il y aura un match, on va pas dire sans enjeu, mais en tout cas avec peut-être moins de suspense entre Villarreal et le Bayern Munich. Et oui, tu le disais, donc jeudi, gros match entre donc West Ham et Lyon. Et puis après, il y aura Marseille face au PAOK Salonique. Cédric, comment tu vois ces deux clubs français? Tu les vois aller loin? Est-ce que tu les vois déjà passer ces quarts?
Bah, sur la nouvelle coupe, je me dis que Marseille a potentiellement les moyens d'aller le chercher.
Ouais, clairement, ouais.
Ils ont quand même l'expérience d'en avoir gagné une, voilà, une C1, quoi. Donc, après, bon, faut voir réellement, comme c'est la première année aussi, c'est pas des clubs qu'on a forcément l'habitude de voir aussi. Est-ce qu'on peut tomber dans le piège? Je sais pas. Ils sont quand même assez sérieux, je trouve, actuellement.
Ouais.
Dans le championnat, donc s'il y a la même rigueur, ça pourrait passer. Puis bah Lyon, c'est le problème, c'est quel Lyon, quelle équipe, dans quel move. Donc,
en Europe, c'est pas malin, mais bon.
Ouais, mais il y a toujours des petits travers qu'on retrouve dans le championnat aussi. Donc après, on souhaite toujours que les clubs français passent, hein, mais
ouais.
Ça c'est le côté chauvin, mais. Non, c'est enfin en termes, oui. Si je devais regarder un des deux matchs, je choisirais quand même Lyon parce que ouais, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de suspense.
Ouais, c'est surtout que
en tout cas au match aller.
Ouais.
Ça se trouve, on dira complètement l'inverse au match retour.
Et, ouais. Et puis Lyon qui peut affronter le Barça au prochain match,
c'est
ce qu'elle
dit. Lyon derrière, enfin il y a. C'est vrai que la carotte qui est au bout de cette coupe, c'est quand même une qualification directe en C1.
Donc ça peut être
Lyon,
un gros truc pour Lyon. Ouais.
Comme c'est déjà compliqué d'aller se qualifier via le classement, je pense que oui, ils vont tout donner, quoi.
On va donc clôturer cette émission. Il est 20h57. On va laisser la place à Imaginaire donc pour la suite des programmes.
Qui était aussi au Geekfest.
Effectivement, qui était aussi au festival Angers Geekfest. Merci les gars d'avoir été avec moi pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour toi, Cédric. Faustin, on se redira ça. Donc peut-être la semaine prochaine ou peut-être une autre date. Merci donc beaucoup d'avoir été avec nous. Donc sur le 101.5 FM de Radio G. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale d'Alain Juin. Et puis voilà, je vous laisse avec.
Il y aura du hockey encore.
Toujours du hockey.
Il y aura toujours du hockey.
Toujours du hockey sur Génération Sport. Et puis voilà, on se quitte avec le générique et bonne soirée.